Le 9 octobre 2022, l'anthropologue et intellectuel Bruno Latour disparaissait à l'âge de 75 ans. Ses réflexions sur l'écologie politique, le vivant, l'épistémologie ou encore le numérique ont marqué son temps. Et son influence sur d'autres penseurs contemporains est indéniable. Pourtant, il n'est pas chose aisée de résumer la pensée de Bruno Latour tant elle est vaste et ses objets d'études éparses. Le philosophe français le plus célèbre, le plus incompris, écrivait le New York Times. Pour tenter de mieux saisir la pensée et l'œuvre de Bruno Latour, France Culture vous propose de redécouvrir l'émission À voix nue qui lui était consacrée. Pour ouvrir cette série de 5 entretiens menés par François Ewald, débutons avec sa formation de philosophe et l'apprentissage empirique de l'anthropologie qu'il entame du côté de l'Afrique.
Bruno Latour, nous nous connaissons depuis finalement pas très longtemps, même si sans doute on s'est lu avant de se connaître physiquement. Mais je crois qu'entre nous, c'est noué une amitié joyeuse qui fait que nous pouvons suivre nos chemins, mais en même temps en aimant partager nos textes, nos interrogations, nos convictions. Alors je crois que pour maintenir ce climat et cette amitié, on peut utiliser le « tu » dans cette série d'entretiens. C'est un « tu » qui n'exclut personne, mais plutôt qui invite l'auditeur à nous rejoindre. Alors Bruno, est-ce que tu peux nous dire un peu, nous rappeler ton parcours ?
Mon parcours est très simple, c'est celui d'un fils de la bonne bourgeoisie provinciale bourguignonne qui fait de la philo, c'est-à-dire qui abandonne le métier paternel de négociant en vin, qui va à l'université et qui, grâce au service militaire en coopération, découvre l'anthropologie à une époque qui était tout à fait favorable à l'anthropologie africaine dans les années 70. Et se convertit aux méthodes de terrain, c'est-à-dire croise le training, disons, du philosophe, puisque j'ai passé l'agrégation de philo avant d'aller en Afrique, et les méthodes de terrain empirique des anthropologues. Donc je me suis défini dès le début comme un philosophe empirique, pas forcément empiriste, mais empirique, c'est-à-dire qui essaie de poser des problèmes classiques de la philosophie, mais par des méthodes empruntées aux anthropologues. Donc, dès que j'ai commencé à Abidjan, où j'étais jeune chercheur à l'Orstom, je me suis tout de suite aperçu d'une bizarrerie de l'anthropologie, c'est qu'elle s'intéressait beaucoup aux autres cultures, mais que quand elle étudiait nos cultures à nous, c'est-à-dire la période contemporaine et moderne, elle s'intéressait aux marges, si tu veux, de la société, c'est-à-dire au patrimoine, aux fêtes, à ce qui restait archaïque, en quelque sorte, dans les sociétés, mais qu'elle n'allait pas au cœur de nos sociétés modernes, qu'elle s'intéressait pas ni aux sciences, ni aux techniques, ni aux droits, ni à l'économie. Donc j'ai imaginé à ce moment-là, à Abidjan, très tôt, un programme de recherche que j'appelle le mot est un peu bizarre, mais d'anthropologie symétrique, c'est-à-dire d'étudier avec les mêmes méthodes et les mêmes principes, à la fois ce qu'on appelle les autres cultures et les modernes, c'est-à-dire le centre, disons, de notre société. Et j'ai imaginé un parcours un peu biscornu, parce que je me suis dit, la première chose qu'il faut qu'on étudie si on veut comprendre les sociétés contemporaines, la source de vérité vraiment très importante des sociétés contemporaines, c'est les sciences. Et qu'est-ce qui se passerait si on appliquait des méthodes d'anthropologie, des méthodes d'ethnographie à la production scientifique? De façon à ce que quand on étudie les autres cultures, on s'intéresse à ce qui forme leur centre, leur cœur, c'est-à-dire la religion, les rituels, l'économie, etc. Et quand on étudie nos cultures, avant cette anthropologie symétrique, on s'intéressait seulement aux marges, mais pas au centre. Donc ce que je voulais, c'est une anthropologie qui s'intéresse au centre de production des vérités dans les deux cas.
Mais tes études de philo, tu as quelques profs qui sont restés pour toi des références. Tu donnes souvent une référence à Michel Serres.
Ah, j'ai connu Michel Serres quand j'étais en Californie et j'ai beaucoup appris de Michel Serres, dont j'ai suivi les cours à la Sorbonne, mais beaucoup, beaucoup plus tard, après que j'ai été j'ai fait mes premières études de laboratoire. Et Serres, en fait, a un intérêt que j'ai tout de suite compris, partagé et qui m'a beaucoup appris, qui était aussi de faire passer le courant entre, disons, la culture, ce qu'on appelle la culture littéraire, et la culture scientifique. Sa culture scientifique est bien plus large, évidemment, que la mienne. Mais, disons, c'est pas un empirique, c'est-à-dire que lui, c'est pas les études de terrain qui l'intéressent. Donc, il est resté dans la tradition philosophique de commentaires de textes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de prendre ces questions d'anthropologie des sciences. Il utilise d'ailleurs, Serres utilise le mot, mais avec des méthodes empiriques. Donc c'est pour ça que j'ai passé aussitôt, dès après l'Afrique, 2 ans en Californie, dans un laboratoire, à appliquer des méthodes absolument classiques et même obsolètes en anthropologie, mais à des chercheurs scientifiques qui n'avaient jamais été étudiés, disons, avec ces méthodes. Je me souviens de l'effroi de Roger Guillemin, qui était le prix Nobel qui m'avait admis dans son laboratoire, un Français bourguignon, comme moi, quand il a commencé à voir que je faisais de l'anthropologie, c'est-à-dire que je m'intéressais à tout, aux lettres, à la disposition de l'espace, aux relations familiales des chercheurs, à la façon dont ils travaillaient, aux écrits, à l'expérimentation. Bref, tout ce qu'un anthropologue, disons, qui aurait lu le manuel de Mauss d'anthropologie, pourrait étudier. Et évidemment, la vision de la production scientifique qui en sortait était un peu différente de celle que j'avais appris à l'école, disons, nourrie de bachelard de Ganguilhem. Mais assez proche aussi de gens comme Dagonier ou de philosophes originaux comme ça, dont la France est remplie, et qui m'avaient aussi beaucoup appris quand je faisais mes études.
Tes références anthropologiques, c'est qui ?
Ben, à l'époque, j'avais pas mal appris de Marc Auger, qui était à l'époque très lié au milieu africain. Et ensuite, j'ai lu de façon très autodidacte, puisque j'ai jamais passé de diplôme en anthropologie, les anthropologues de Marshall Saline, des gens comme ça. Mais ce qui m'intéressait toujours en anthropologie, c'est les méthodes. Parce que je ne crois pas que les concepts que l'anthropologie a développés soient très réutilisables. Par exemple, la notion de culture, la notion de rituel, la notion de mythe, toutes ces notions sont complètement biaisées par le fait que ce n'était pas une anthropologie symétrique, qu'elle étudiait différemment, différentiellement en quelque sorte, nos sociétés contemporaines et les autres. Donc je n'ai jamais cru beaucoup, si tu veux, à l'anthropologie comme conceptualisation adéquate du rapport aux autres. Je pense que l'anthropologie, dès le début, je me suis aperçu que, d'ailleurs, ma première étude était très simple, c'était chargé d'étudier pourquoi, d'après les commanditaires de l'étude, les pauvres Abidjanais ne comprenaient pas, ne pouvaient pas remplacer les cadres supérieurs français envoyés dans les entreprises. Et je me suis tout de suite aperçu que la littérature anthropologique sur ces questions était extraordinairement biaisée. Si tu veux, c'était de l'ethnocentrisme, plus de l'épistémologie déguisée. Et donc, j'ai jamais cru vraiment à l'anthropologie comme discipline établissant la connexion, la diplomatie, ce que j'appellerais maintenant la diplomatie, avec les autres. Parce que, à cause de la notion de culture, par exemple.
Et alors, après Abidjan, tu pars aux États-Unis, c'est ça ?
Donc, j'ai passé 2 ans aux États-Unis, où j'ai retourné depuis pratiquement tous les ans. Et ensuite, je suis revenu en France, où j'étais au Conservatoire des Arts et Métiers. Et je suis resté 5 ans, très content, parce que j'étais dans un monde scientifique et technique, le conservatoire, avec un magnifique musée dans lequel j'ai passé beaucoup de temps. Et ensuite, j'ai eu la chance de passer aux mines, donc encore une école d'ingénieurs, encore un milieu scientifique et technique, et donc un milieu d'élèves et de collègues formés aux méthodes scientifiques et techniques que je continue à étudier et à côtoyer. Mais mon projet est depuis, parce que ensuite je me suis intéressé beaucoup plus aux techniques qu'aux sciences, ensuite au droit, maintenant à l'économie, c'est de repérer, si tu veux, les différents centres, les différents lieux où se produisent les vérités les plus essentielles aux sociétés contemporaines. C'est-à-dire d'aller au cœur de ce qui les définit. Alors la science, évidemment, parce que l'universalité et la vérité scientifique et définit tout l'horizon des modernes. La technique, parce que j'ai passé énormément de temps, j'ai fait pas mal de livres et d'articles sur des objets techniques. J'ai passé 3 ans à étudier un métro automatique, par exemple, qui s'appelait Aramis, et qui m'a passionné, qui était un projet technique très élaboré, parce que les techniques forment la référence, enfin, essentielle des modernes, et si on ne comprend pas leur capacité à définir une vérité technique, sur une efficacité technique, on ne comprend rien. Et depuis, j'ai passé pas mal de temps à étudier le Conseil d'État. Là, je me rapproche des sujets qui t'ont intéressé toi-même, c'est-à-dire le droit, qui est une autre forme beaucoup plus antique et beaucoup plus distribuée de production de vérité essentielle à la constitution des modernes. Donc mon ambition, c'est de les passer tout en vue, si tu veux.
Ton objet, c'est finalement pas les sciences.
Non, pas du tout. Bon,
je suis connu comme sociologue. Un peu.
Oui, mais je suis connu comme sociologue des sciences parce que c'est ma discipline d'affiliation. J'ai en partie constitué. Mais mon but, c'est d'étudier. J'étudie les sciences parce que dans les sociétés contemporaines, les sciences constituent un des éléments essentiels. Mais ce qui m'intéresse, c'est l'anthropologie, des sociétés modernes.
C'est l'anthropologie symétrique.
C'est l'anthropologie symétrique avec, c'est-à-dire le problème de la diplomatie, de la relation qui va maintenant devenir de plus en plus importante, surtout avec dans l'époque où on vit, de comment on établit des relations qui sont des relations de négociation ou de diplomatie avec les autres cultures et pas sous la forme que j'avais connue à Abidjan et qu'on a connue depuis de la modernisation, c'est-à-dire l'idée qu'on va moderniser la planète et que l'extension de la science, de la technique et de l'économie est une espèce d'évidence qui poursuit et qui agite, disons, les modernes sans autre question.
Il y a beaucoup de livres maintenant publiés. Est-ce que, enfin, quand on lit, on a un peu l'impression, enfin, je me disais finalement que tout ça obéissait peut-être à une, comment dire, à un schéma ou à une loi qui serait la suivante. Finalement, tu as commencé par la sociologie ou l'anthropologie des sciences. Je ne sais pas si tu fais une distinction entre les deux.
Non, pas vraiment.
Le type d'études que tu as mis en place, que tu as commencé à décrire tout à l'heure, mais sur lequel on reviendra, te fait décrire finalement un projet, ce qui serait le projet politique ou des sociétés occidentales, autour de la notion de moderne, pourquoi on est moderne, pas moderne, qu'est-ce que c'est qu'être moderne et pourquoi il ne faut pas être moderne. Et puis, ceci débouche maintenant plutôt sur un programme ou un projet politique. C'est-à-dire que tu es passé de l'étude de certains objets qui t'ont permis d'avoir une vision particulière sur la constitution des sociétés dans leur aspect politique pour décrire aujourd'hui ou pour t'aventurer aujourd'hui dans un projet politique, non ? C'est ça ta philosophie, c'est le développement de ta philosophie.
Ben, je sais, de l'intérieur, vu de l'intérieur, c'est-à-dire vu du côté du producteur et pas du lecteur, mon projet est celui, c'est pas vraiment un projet, ouais, c'est un projet politique, tu as raison, c'est-à-dire c'est quel est l'assemblage qui permet la négociation planétaire en quelque sorte entre ce qu'on pourrait appeler culture, mais c'est pas vraiment des cultures, qui se fait non pas sous l'égide la modernisation. C'est-à-dire, quelle est l'alternative à la modernisation ? Si la modernisation n'est pas l'horizon de transformation de toutes les cultures, c'est-à-dire si on n'imagine pas un progrès qui, à terme, fera que nous serons tous modernisés depuis Dunkerque jusqu'à Vladivostok, et puis de la Terre de Feu jusqu'au Groenland, si on pense que ça, c'est pas un modèle qui est pensable, c'est pas un modèle de diplomatie jouable, quelle est l'alternative ? Donc, en ce sens, oui, c'est bien un projet, c'est un projet politique. Mais il n'est pas politique en ce sens que une des choses qui m'intéresse beaucoup maintenant, c'est la difficulté qu'il y a à pratiquer l'énonciation politique. C'est-à-dire, ce qui m'intéresse, en fait, après maintenant avoir étudié les sciences, le droit, la technique, là, je publie un livre bientôt sur l'énonciation religieuse, c'est de comparer les modes, si tu veux, les modes de production de la vérité qui sont essentiels à nos sociétés pour que nous puissions ensuite nous présenter de façon un peu plus correcte, un peu plus diplomatique, un peu plus juste aux autres cultures en leur disant voilà ce à quoi on tient. Si vous nous enlevez ça, si vous nous enlevez les éléments essentiels qui composent les sciences, les techniques, notre conception de la religion, notre conception de la politique, notre conception du droit, nous perdons quelque chose d'essentiel à notre définition. C'est pas qu'on est moderne et qu'on va vous moderniser, vous, les autres, c'est que c'est ça qui, pour nous, est absolument essentiel. Donc c'est rouvrir la négociation entre cultures. C'est donner à l'anthropologie une forme de reconnaissance des autres qui soit plus adéquate que l'ancienne définition.
C'est bien un projet politique, ça.
Oui, c'est un projet, oui, tout ce qu'il y a de plus de philosophie politique.
Dans tes travaux, tu es assez deleuzien. Et tu aimes bien, tu es un inventeur de mots. Enfin, tu as mis dans le vocabulaire philosophique un certain nombre de nouveaux vocabulaires. Là, tu parlais tout à l'heure de diplomatie, de modernisation. C'est pas des mots qu'on trouve fréquemment dans le vocabulaire philosophique. Où il y a tout ce que tu as pu dire sur les hybrides, sur toute cette prolifération d'êtres nouveaux qui accompagne la notion d'anthropologie symétrique, etc. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu ? Tu viens de parler de modernisation, là. Qu'est-ce que c'est que cette...
Mais je fais remarquer que tous ces mots sont des mots parfaitement français et qu'il n'y a pas un mot de jargon.
Non, mais ils sont très beaux.
Dans tous ces termes. Donc, c'est plutôt une réutilisation de mots absolument communs. J'ai toujours évité d'inventer des termes qui soient des termes, disons, du jargon philosophique. Modernisation, c'est très simple, c'est le test. Il faut faire un test pour définir un mot. Le terme de modernisation s'explique très bien. Est-ce que les auditeurs peuvent faire le test pour eux-mêmes. Est-ce qu'on imagine que demain, la distinction sera faite de façon plus claire entre les faits et les valeurs? C'est ça essentiellement la modernisation. C'est-à-dire qu'on aura demain, on pourra distinguer parfaitement mieux la notion d'efficacité, de vérité et de rentabilité, c'est-à-dire la science, la technique et le marché, de ce qu'on peut appeler les valeurs ou les opinions subjectives ou la mythologie ou les archaïsmes divers qui nous obscurcissent la pensée. C'est-à-dire que nos pères qui ont inventé le rationalisme, je sais qu'on est un peu en désaccord sur cette histoire, ont inventé cette flèche du temps, en quelque sorte, qui sépare le passé de l'avenir. Dans le passé, tout ça s'était mélangé, on mélangeait la conception du ciel avec la façon d'aller au ciel et la façon dont les étoiles et les planètes se déplaçaient. Mais demain, on va arriver à une distinction beaucoup plus nette entre, d'une part, le monde des faits, le monde de l'évidence naturelle, les lois de la nature, et de l'économie aussi, et de la technique, et les valeurs. Ça, c'est ce que j'appelle, c'est la flèche qui définit la modernisation. C'est-à-dire l'impression que demain, il y a donc un progrès et un front de modernisation, et que ce front de modernisation est relativement homogène, qui va à la fois la définition de nouvelles techniques, la définition de nouvelles libertés, la définition de nouvelles formes politiques, et que ce front de modernisation avance de façon régulière en distinguant de mieux en mieux les faits et les valeurs. Et on n'est pas moderne, comme moi. On est non moderne ou amoderne, le terme n'existe pas, ou seconde, deuxième modernisation, pour reprendre l'expression d'un auteur qui nous est cher à tous deux, qui s'appelle Ulrich Beck, qui est un sociologue allemand. Quand on se dit, demain, ça sera encore plus mélangé, c'est-à-dire que la fusion entre les faits et les valeurs sera encore plus grande qu'hier. Donc le test est très simple, c'est-à-dire si on pense que demain, on sera plus émancipé, on est moderne en gros, si on pense qu'on sera plus attaché et qu'on se devra prendre en compte et se soucier d'un plus grand nombre d'êtres, encore plus hybrides qu'hier, on n'est pas moderne.
Qu'est-ce que vient faire la diplomatie là-dedans?
Ah ben, la diplomatie, c'est que quand on était moderne, on n'avait pas besoin de diplomatie, puisque, en fait, quand on s'adressait aux autres cultures, ces autres cultures avaient comme horizon soit l'archaïsme, elles restaient dans la confusion où elles étaient des faits et des valeurs, elles prenaient les changements d'étoiles pour des changements de famille, et des changements de famille pour des changements d'étoiles, elles mélangeaient, comme le dit Mosé Durkheim dans un fameux article, la parenté et le cosmos, en gros, cette confusion les frappait, ou bien elles abandonnaient cette confusion et elles devenaient modernes, c'est-à-dire qu'elles séparaient bien leur représentation du monde, subjective, mythique, respectable, etc., de ce que le monde, le seul monde, le monde unifié par la science et la technique et l'économie, leur permet de connaître.
D'accord. Et que fait la diplomatie, alors?
Ben, la diplomatie dit...
Attendez, la diplomatie est un programme du futur, si je comprends bien.
Bien sûr. Elle dit... s'il y a une chose qu'on doit s'interdire, c'est d'unifier d'avance, d'unifier trop vite, vous et nous, les autres et nous. Monsieur Bin Laden... Et nous, ou M. Bush et M. Bin Laden, ne s'unifient pas sur fond d'un partage, d'une nature commune, d'une efficacité commune, d'une rentabilité commune, d'un Dieu commun. Ils sont en désaccord non seulement sur les valeurs, ils sont en désaccord sur l'ensemble des éléments qui composent un cosmos. D'où l'expression renouvelée par Isabelle Stengers, qui est une philosophe belge d'une importance absolument majeure pour moi depuis que je la connais depuis maintenant 20 ans, d'expression de cosmopolitique. C'est-à-dire de dire, la diplomatie, c'est pas nous sommes unifiés, vous et nous, parce que nous partageons la même nature, c'est nous ne partageons pas encore de monde commun. Et nous ne pouvons pas faire même commencer à prendre langue entre vous et nous, si nous-mêmes, alors ça, j'ajoute ça par rapport à l'argument d'Isabelle Stengers, si nous-mêmes, on n'a pas défini quelles sont les choses auxquelles on tient. Donc, reprendre l'argument des sciences, reprendre l'argument des techniques, reprendre l'argument du droit, reprendre l'argument de la religion, reprendre l'argument de la politique, de façon à ce que nous puissions nous adresser aux autres, enfin proprement, disons. La première forme a été désastreuse, on peut dire, c'est l'impérialisme. La deuxième forme...
L'impérialisme est moderne pour toi.
Bien sûr, l'impérialisme...
Et le moderne est impérialiste.
L'exemple absolument extraordinaire d'impérialisme et très ancien, c'est les mémoires du capitaine Cook. Le capitaine Cook découvre le monde, il va partout, il n'est surpris... Il est surpris par beaucoup de choses, mais au fond, par rien. Parce que tout le monde, toutes ces îles, tous ces nouveaux peuples viennent s'installer dans sa cartographie de ce monde unifié, ce monde naturel, qu'il est en train de constituer. Il n'est pas surpris. Et quand il bombarde les quelques îles sauvages auxquelles il passe, c'est pas du tout par méchanceté ou par... c'est par pédagogie. La grande différence, la diplomatie, elle n'est pas pédagogique. Tandis que les modernes ont toujours été pédagogiques. Les modernes n'ont jamais été très méchants, ils n'ont jamais fait de guerre vraiment. Ils ont fait des guerres partout, mais toujours pédagogiques. Ils ne faisaient qu'enseigner l'évidence du monde commun, qui était le monde de la nature, de la technique. Et c'est cette position-là qui est devenue évidemment impossible.
Tu es philosophe, en fait, et tu es un philosophe de la conjoncture, finalement, de l'anthropologie, de la conjoncture de la pluralité des mondes.
Parfaitement juste. Belle expression.
Et ton projet ou ton espoir, c'est qu'on doit arriver à ce que cette pluralité se maintienne, mais en même temps à travers l'idée d'un monde commun.
Oui, ton expression est meilleure que la mienne. C'est-à-dire que les modernes considèrent que le monde commun est déjà là, c'est celui derrière nous en quelque sorte, ou sous nous, ou au-dessus de nous, ça dépend s'ils sont religieux ou scientistes, mais enfin en gros, le boulot est déjà fait. Le monde commun est déjà constitué.
C'est pas tout à fait exact, parce que les modernes quand même pensent progrès, donc ils pensent.
Oui, mais le progrès, c'est quoi? Le progrès, c'est de laisser tomber. La notion de progrès, elle est très simple du point de vue de la structure. On progresse quand on abandonne la subjectivité et l'idéologie pour reconnaître l'évidence, un peu parfois triste et froide, des faits objectifs et de la nature. Donc c'est toujours une espèce d'approximation, on va enfin en quelque sorte rejeter les idées vagues ou le coloré, pense à Monod, des modernistes extrêmes comme Monod, biologiste des années 60, dans Le hasard et la nécessité, voilà l'exemple même du grand prêche moderniste.
Est-ce que tu penses que ce programme, après le 11 septembre, peut encore se réaliser? On voit bien ce programme finalement dans se réaliser finalement après la chute du mur de Berlin, finalement comme une espèce de d'autres versions de cette espèce de grande pacification mondiale. Mais comment est-ce que tu peux parler d'un monde commun entre Bush et Ben Laden? Comment est-ce que tu peux parler d'un monde commun entre toi et Ben Laden?
Il n'y en a pas, mais il ne faut pas imaginer qu'il y en ait un qui nous permettrait de nous unir ou de nous entendre à bon marché. C'est ça la différence, c'est que le moderne imaginait quand même toujours que les débats étaient des débats, au fond, marginaux. Même si on se tuait, ou on s'emprisonnait, ou on se conquérait, c'était quand même toujours à la marge, puisque le fond, c'était les lois de la nature, la génétique est la même, l'économie est partout pareille, l'efficacité est partout pareille, l'eau bout à 100 degrés partout, les lois de la gravité et de la pesanteur sont partout pareilles. On était déjà unis, si tu veux. À la marge, on ne l'était pas, mais en gros, on l'était déjà. Alors qu'évidemment, ce qui est intéressant, au contraire, je pense que l'anthropologie symétrique devient encore plus importante et encore plus cruciale, en quelque sorte, avec les événements récents, c'est l'abîme de cette pluralité des mondes. Et on ne peut pas imaginer un accord si on n'a pas d'abord mesuré l'abîme du désaccord, qui porte sur tout, sur la définition de Dieu, sur la définition du marché, sur la définition de l'efficacité technique, sur la définition des mondes scientifiques possibles, ce que j'appelle le multinaturalisme. Et si on n'a pas mesuré la profondeur de cette pluralité, pour reprendre ton expression que je trouve très, très exacte, on ne peut même pas imaginer ce que c'est qu'un accord. Donc, c'est pour ça que mon argument, c'est qu'on ne peut pas faire la paix si on n'a pas d'abord été en guerre. Et les modernes n'ont jamais été en guerre, si tu veux.
Oui, mais est-ce que tu n'es pas trop accueillant, finalement?
On peut abandonner l'idée d'un monde commun.
Oui, mais est-ce que justement...
Je reste héritier de ma tradition occidentale, dont je suis fier. Je ne suis absolument pas du tout critique ou révolutionnaire sur cette tradition. Au contraire, je la respecte. Je veux simplement qu'elle réussisse. C'est-à-dire que notre tradition à nous, c'est d'imaginer que le monde commun est bien l'horizon à long terme du développement de l'humanité, bien évidemment. Mais donc je respecte cette tradition. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas faire ça bon marché. On ne peut pas dire, on a déjà l'unité qui est la nature, et il ne reste que des poches de résistance qui sont des subjectivités, idéologies qui vont s'atténuer. Ça, c'est absolument impossible. Donc je suis fier d'hériter de ma tradition. Mais cette tradition, je ne veux pas qu'elle perde. Et elle perdrait si elle continuait à être moderne.
Qu'est-ce qui la menace?
Précisément, la quantité et la multiplicité des autres mondes possibles qui relèvent la tête, en quelque sorte. Et l'impérialisme ne comprenait pas du tout ça, puisque l'impérialisme, il était sous fond d'un accord évident. L'impérialisme était pédagogique. Nous ne nous sommes répandus sur la planète que pour de bonnes raisons, en quelque sorte, pour enseigner, pour éduquer, pour rééduquer, pour chasser les marabouts absurdes, abandonner l'archaïsme le plus grotesque, etc., et éduquer. Tandis que maintenant, on voit bien qu'il n'est plus question de pédagogie. On est entre égaux. Et donc, on doit nous se défendre. Et donc, on doit être capable de nous dire, voilà les choses auxquelles on tient. Ce sans quoi nous ne serions plus des héritiers de notre tradition. Et voilà ce à quoi on tient. Et là, il faut redéfinir qu'est-ce qu'on entend vraiment dans les sciences. À quoi est-ce qu'on tient vraiment dans les sciences? Est-ce que c'est à l'universalité qui nous a servi jusqu'ici? Pas très bien, il faut le reconnaître. Est-ce que c'est la technique, mais est-ce que c'est sous la forme de l'efficacité, ou est-ce que c'est plutôt sous le forme de l'imbroglio du nombre d'êtres que nous prenons en compte? Le droit est un peu moins problématique, parce que le droit a toujours été non moderne, en quelque sorte. Et évidemment, le problème essentiel, c'est la religion, la place de la religion et de la politique.
Vous venez d'entendre le premier volet de l'émission À Voix Nue consacrée à Bruno Latour, disparu le 9 octobre 2022. Demain, il sera question de sociologie des sciences.